Chapitre 76, Volonté et esprit de décision. Un pouvoir dominant, la volonté est le pouvoir dominant de la nature humaine qui place toutes les autres facultés sous son commandement. Il ne faut pas confondre la volonté avec les penchants et les inclinations. C'est la faculté de décider qui agit dans les enfants des hommes soit pour obéir à Dieu, soit pour lui désobéir. Tout dépend de sa juste action. Ceux qui sont les jouets de la tentation ont besoin de comprendre la force réelle de la volonté. Celle-ci est la puissance qui gouverne la nature humaine, qui décide, qui choisit. Tout dépend de la volonté. Le désir d'être bon, pur, est légitime en lui-même. Mais si nous nous arrêtons là, il est sans valeur. Beaucoup vont à leur perte tout en espérant et en désirant triompher de leur tendance au mal. Ils ne soumettent pas leur volonté à celle de Dieu et ne choisissent pas de le servir. Le ressort des actions, votre volonté est le ressort de toutes vos actions. Cette volonté, qui constitue un facteur si important dans le caractère de l'homme, fut, lors de la chute, dans le jardin d'Éden, soumise au pouvoir de Satan. Désormais, elle agit en l'homme de manière que celui-ci veuille et agisse selon son bon plaisir, mais pour sa ruine et son propre malheur. Le sacrifice infini que Dieu a fait en donnant Jésus, son Fils bien-aimé, en offrande pour le péché, l'autorise à dire, sans violer aucunement les principes de son gouvernement. Donnez-vous vous-même à moi, donnez-moi votre volonté, arrachez-la au pouvoir de Satan, et je vais en prendre possession, alors je pourrai agir en vous pour accomplir le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. Quand le Seigneur vous donne l'Esprit du Christ, votre volonté devient conforme à la sienne, et votre caractère est rendu semblable au caractère du Christ. Une nature combative, la volonté de l'homme est combative et cherche constamment à faire concourir toute chose à ses objectifs. Si la volonté est ralliée à la cause de Dieu et du bien, les fruits de l'Esprit se manifesteront dans la vie. Et Dieu a promis la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien. L'incapacité est entre nos mains, notre vie tout entière appartient à Dieu, et doit être employée pour sa gloire. Sa grâce sanctifiera et améliorera chaque faculté. Que nul ne dise. Je ne puis remédier à mes travers de caractère, si vous tenez ce raisonnement, vous n'obtiendrez certainement pas la vie éternelle. En fait, l'impossibilité réside dans votre volonté. Si vous ne voulez pas vaincre, vous ne le pourrez pas. La vraie difficulté vient de la perversité du cœur non sanctifié et du refus de se soumettre à l'autorité de Dieu. Le meilleur calmant, l'esprit et les nerfs sont tonifiés et fortifiés par l'exercice de la volonté. La puissance de celle-ci s'avérera dans bien des cas le meilleur calmant nerveux. Quand Satan tient les rênes, lorsqu'on permet à Satan de modeler la volonté, il en profite pour accomplir ses desseins. Il excite les propensions au mal, il éveille les passions et les ambitions impures. Il dit, toute cette puissance, tous ces honneurs, ses richesses et ses plaisirs coupables, je te les donne, mais à une condition, que l'on renonce à son intégrité, que la conscience soit faussée. C'est ainsi qu'il dégrade les facultés humaines, et les rend esclaves du péché. La volonté poussée à bout, en tant qu'enfant de Dieu, il nous appartient de confesser notre foi sans défaillance. Mais il arrive que la force suprême de la tentation semble pousser notre volonté jusqu'aux limites de sa capacité. Dans ce cas, exercer la foi paraît contraire à l'évidence des sens et des émotions. Cependant, notre volonté doit être maintenue du côté de Dieu. Nous devons croire qu'en Jésus-Christ réside une force et une efficacité éternelles. Heure après heure, nous devons maintenir victorieusement notre position en Dieu, fort de sa force. Les enfants ne sont pas des animaux, l'éducation des enfants, à la maison comme à l'école, ne devrait pas ressembler au dressage des animaux. Les enfants ont une volonté consciente qui doit être entraînée à contrôler toutes leurs facultés. Les animaux subissent un dressage, car ils ne sont pas doués de raison. Mais il faut apprendre à l'esprit humain à se contrôler et à contrôler l'être tout entier, tandis que les animaux sont sous l'autorité d'un maître et sont entraînés à lui obéir. Le maître est l'esprit, le jugement et la volonté de la bête. Diriger, et non briser, la volonté, si un enfant est dressé à la façon des animaux, il n'aura pas de volonté propre. Sa personnalité même sera anéantie par celle de l'homme qui l'éduque. Sa volonté, ses intentions et ses buts seront soumis à la volonté de son maître. Les enfants élevés de la manière que nous venons de décrire manqueront toujours d'énergie morale et de responsabilité individuelle. Ils n'ont pas été habitués à agir d'après leur raison et des principes établis. Leur volonté a été soumise à celle d'autrui, et on n'a pas fait appel à leur intelligence afin qu'elle se fortifie par l'exercice. On ne les a pas habitués à mettre en œuvre leurs plus hautes énergies, lorsque cela était nécessaire, en rapport avec leur tempérament particulier et leurs aptitudes personnelles. Les maîtres ne doivent pas s'arrêter là mais se préoccuper particulièrement du développement des facultés les plus faibles, afin qu'elles soient aussi exercées et amenées à l'égal des plus fortes, de sorte que l'esprit atteigne un équilibre normal. Préserver la force de la volonté, la méthode qui consiste à briser la volonté est contraire au principe du Christ. La volonté de l'enfant doit être dirigée et guidée. Préserver toute la force de la volonté, car elle est nécessaire à l'être humain dans sa totalité, mais orienter-la dans la bonne direction. Traiter la volonté avec sagesse et délicatesse, comme s'agissant d'un trésor sacré. Ne la réduisez pas en pièces. Mais par le précepte et par l'exemple, formez-la, façonnez-la jusqu'au jour où l'enfant aura l'âge d'assumer des responsabilités. Le maître ne doit pas être autoritaire, ceux qui sont égoïstes, irritables, autoritaires, brutaux, durs, qui ne considèrent pas attentivement les sentiments des autres, ne devraient jamais être employés comme maîtres. Ils auraient une influence désastreuse sur les élèves, en les modelant d'après leur propre caractère, entretenant ainsi le mal. De telles personnes chercheront à briser la volonté d'un garçon, si celui-ci est insoumis. Mais le Christ ne nous autorise pas à traiter ainsi ceux qui errent. En faisant preuve d'une sagesse céleste, par la douceur et l'humilité de cœur, les enseignants peuvent diriger la volonté de leurs élèves et les conduire dans la voie de l'obéissance. Mais que nul ne s'imagine que leur affection peut être obtenue par des menaces. Nous devons agir comme le Christ lui-même a agi. Un piège à éviter, tout jeune doit cultiver un esprit de décision. Une volonté partagée est un piège, et conduira de nombreux jeunes à la ruine. Faites preuve de fermeté, sinon, votre maison, c'est-à-dire votre caractère, restera fondée sur le sable. Certains se tiennent malheureusement toujours du mauvais côté, alors que le Seigneur voudrait qu'ils soient des hommes fidèles capables de distinguer le bien du mal. Élément constitutif du caractère, la force de caractère comprend deux choses, une volonté ferme et le pouvoir de se dominer. Beaucoup de jeunes se trompent en prenant pour de la force de caractère leur passion incontrôlée. La vérité, c'est que celui qui est dominé par ses passions est un homme faible. La grandeur réelle et la noblesse d'un homme sont mesurées par la force des sentiments qu'il subjugue, et non par la force des sentiments qui le subjuguent. L'homme le plus fort est celui qui, bien que violemment tenté, maîtrise ses passions et pardonne à ses ennemis. De tels hommes sont de véritables héros. La volonté humaine unie à la force divine, vous pouvez devenir des hommes sur lesquels reposent de lourdes responsabilités, et exercer ainsi une bonne influence si, par votre force de volonté unie à celle de Dieu, vous vous mettez sérieusement à l'œuvre. Exercez vos facultés mentales et en aucun cas ne négligez les facultés physiques. Qu'aucune paresse intellectuelle ne vous empêche d'acquérir de plus grandes connaissances. Apprenez à réfléchir aussi bien qu'à étudier, afin que vos facultés puissent se fortifier et se développer. Ne croyez jamais que vous possédez assez de connaissances et que vous pouvez relâcher vos efforts. C'est à la culture de son esprit qu'on juge un homme. Votre éducation doit continuer pendant toute votre vie. Chaque jour vous devez apprendre et utiliser les connaissances acquises. Le pouvoir de la volonté utilisé comme il convient, d'après ce que j'ai vu, nombreux sont ceux qui, apparemment faibles et constamment en train de se plaindre, ne sont pas en aussi mauvaise condition qu'ils l'imaginent. Certains d'entre eux disposent d'une volonté forte qui, si elle était employée dans le bon sens, serait un moyen puissant de dominer l'imagination et de résister ainsi à la maladie. Mais trop souvent, la volonté est mal employée et refuse obstinément de se soumettre à la raison. Cette volonté a tranché. Ce sont des infirmes et comme tels ils bénéficieront de l'attention due aux infirmes, peu importe ce que pensent les autres. Volonté et santé, on n'apprécie pas comme il convient la puissance de la volonté. Une volonté toujours en éveil et bien dirigée communique de l'énergie à l'être tout entier et contribue merveilleusement au maintien de la santé. Elle est aussi une force pour lutter contre la maladie. Exercée dans la bonne direction, elle règle l'imagination et devient un puissant moyen de résistance aux maladies du corps et de l'esprit. En faisant acte de volonté en ce qui concerne les principes de la vie, les malades peuvent collaborer avec le médecin en vue de leur guérison. Des milliers pourraient ainsi recouvrer la santé. Le Seigneur ne veut pas que les hommes soient malades. Il aime les voir bien portants et heureux. Ce qui leur manque, c'est la volonté d'être en bonne santé. Les invalides résisteraient souvent à la maladie en refusant de céder à leur souffrance et de rester inactifs. En dominant leur malaise et leur douleur, en s'adonnant à un travail utile, adapté à leurs forces, ils pourraient, grâce au soleil et au grand air, retrouver la vigueur et la santé. Pour une amélioration de la santé, les mauvaises habitudes provoquent chez les humains des maladies de toutes sortes. Que grâce à l'éducation, on comprenne la faute qui consiste à maltraiter et à avilir les facultés que Dieu nous a données. Que l'esprit devienne intelligent et que la volonté se range du côté du Seigneur, et la santé physique sera merveilleusement améliorée. Mais en aucun cas, cela ne saurait être obtenu par les forces humaines. Par des efforts énergiques et par la grâce du Christ visant à renoncer aux mauvaises habitudes et aux mauvaises fréquentations, et à pratiquer la tempérance en toutes choses, on doit être constamment persuadé que la repentance à l'égard du passé, comme le pardon, doivent être recherchés auprès de Dieu par le sacrifice expiatoire du Christ. Tout cela doit faire partie de l'expérience quotidienne. On doit faire preuve d'une rigoureuse vigilance et prier sans relâche afin que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance du Christ. Son pouvoir régénérateur doit être communiqué à l'âme afin qu'en notre qualité d'être responsable, nous offrions nos corps au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Usage de la drogue, certains consomment de la drogue, et parce qu'ils s'y adonnent, ils ouvrent la voie à de mauvaises habitudes qui finissent par imposer leur loi à la volonté, aux pensées et à l'homme tout entier. Enseigner le pouvoir de la volonté, il faut montrer le pouvoir de la volonté, de la maîtrise de soi dans la protection et le recouvrement de la santé, le rôle déprimant et souvent désastreux de la colère, du mécontentement, de l'égoïsme, de l'impureté face à l'extraordinaire pouvoir vivifiant de la gaieté, de la générosité, de la reconnaissance. Le Saint-Esprit ne saurait se substituer à nous, l'Esprit de Dieu ne se propose pas de faire notre part, en ce qui concerne le vouloir et le faire. Cette part est celle de l'agent humain agissant en coopération avec les agents divins. Dès que nous inclinons notre volonté à se conformer à celle de Dieu, la grâce du Christ intervient pour collaborer avec l'agent humain. Mais la grâce ne remplacera pas notre part indépendamment de nos décisions et de nos actions délibérées. Par conséquent, ce n'est ni l'abondance de lumière, ni l'accumulation des évidences qui convertiront l'âme. Il faut seulement que l'agent humain accepte la lumière, qu'il fasse appel au pouvoir de la volonté, en reconnaissant ce qu'il sait être la justice et la vérité. Ainsi, il coopérera avec les ministères célestes choisis par Dieu pour le salut de l'âme. La seule voie de salut, la volonté de l'homme n'est sauve que lorsqu'elle est unie à la volonté de Dieu. La volonté humaine doit se fondre dans celle de Dieu, dans le conflit qui se joue présentement entre la justice et l'iniquité, nous ne pouvons triompher qu'avec l'aide divine. Notre volonté finie doit être amenée à se soumettre à la volonté du Dieu infini. L'humain doit se fondre dans le divin. Ainsi, le Saint-Esprit viendra à notre aide, et chaque victoire contribuera à ce que Dieu recouvre la propriété qu'il s'est acquise et à restaurer son image dans l'âme. Ce que fait la conversion, l'Esprit de Dieu ne crée pas de nouvelles facultés dans l'homme converti, mais il opère un changement décisif dans l'usage de ses facultés. Quand l'Esprit, le cœur et l'âme sont changés, il n'est pas donné à l'homme une nouvelle conscience, mais sa volonté est soumise à une conscience renouvelée, une conscience dont la sensibilité endormie est réveillée sous l'action du Saint-Esprit. Satan contrôle la volonté qui est insoumise à Dieu. Le Christ a dit, « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Sa volonté était mise en œuvre pour le salut des âmes. Sa volonté humaine se nourrissait de la volonté divine. Aujourd'hui, ses serviteurs feraient bien de se poser la question, « Quel genre de volonté est-ce que je cultive ? Est-ce que je donne libre cours à mes désirs, renforçant ainsi mon égoïsme et mon obstination ?» Si c'est notre cas, nous courons de gros risques, car Satan dominera toujours une volonté qui n'est pas soumise à l'Esprit de Dieu. Quand nous mettons notre volonté à l'unisson de celle de Dieu, on verra dans notre vie la sainte obéissance dont la vie du Christ nous a donné l'exemple. Une conscience pure, la paix intérieure et une conscience exempte de toute offense envers Dieu éveillera et vivifiera l'intelligence comme la rosée répandue sur des plantes fragiles. Ainsi, la volonté est bien dirigée et maîtrisée. Elle est renforcée, tout en étant libre de toute perversité. La volonté détermine notre destinée, l'éternité seule révélera la glorieuse destinée de l'homme régénéré à l'image de Dieu. Pour atteindre un idéal si élevé, il faut sacrifier tout ce qui est pour l'âme une occasion de chute. C'est par la volonté que le péché a prise sur l'homme. La volonté de renoncer au mal est comparée au sacrifice d'un œil ou d'une main. Il nous semble parfois que se soumettre à la volonté de Dieu, c'est consentir à traverser l'existence en mutilé ou en infirme. Dieu étant la source de la vie, nous ne pouvons obtenir cette vie que si nous sommes en communion avec lui. En vous aimant vous-même au point de refuser de soumettre votre volonté à Dieu, vous choisissez la mort. Le don de soi-même exige un sacrifice. Mais c'est échanger ce qui est vil pour ce qui est noble, ce qui est terrestre pour ce qui est spirituel, ce qui est éphémère pour ce qui est éternel. Dieu ne souhaite pas anéantir notre volonté puisque ce n'est qu'en l'exerçant que nous pouvons accomplir ce qu'il désire de nous. Mais nous devons la lui abandonner pour qu'il nous la rende purifiée, régénérée et si étroitement unie à lui qu'il puisse répandre en nous les forces vives de son amour et de sa puissance. Prendre conscience de la vraie force de la volonté, message adressé à un jeune homme instable, vous serez constamment en danger aussi longtemps que vous n'aurez pas conscience de la vraie force de la volonté. Vous avez beau tout croire et tout promettre, vos promesses et votre foi seront sans valeur tant que vous n'aurez pas engagé votre volonté à croire et à agir. Si vous combattez le combat de la foi de toutes vos forces, vous obtiendrez la victoire. Ne vous fiez pas à vos sentiments, à vos impressions et à vos émotions, car ils ne sont pas crédibles. Contrôlez sa volonté, mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Il vous appartient de soumettre votre volonté à la volonté de Jésus-Christ, et quand vous le ferez, Dieu interviendra aussitôt et produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Votre nature tout entière sera alors placée sous le contrôle de l'Esprit du Christ, et vos pensées elles-mêmes lui seront soumises. Vous ne pouvez pas maîtriser vos impulsions et vos émotions comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez dominer votre volonté, et opérer ainsi un changement complet dans votre vie. Si vous vous soumettez à la volonté du Christ, votre vie sera cachée avec lui en Dieu et associée à la puissance qui est au-dessus de toute principauté et de toute autorité. Vous disposerez de la force venant de Dieu. Et vous aurez accès à une lumière nouvelle, la lumière même de la foi vivante. Mais votre volonté doit coopérer avec celle de Dieu. Les liens qui unissent à l'énergie divine, nous sommes ouvriers avec Dieu. Telle est la sage disposition que le Seigneur a prise. La coopération de la volonté et des efforts humains associés à l'énergie divine est le lien qui unit étroitement l'homme à Dieu. L'apôtre Paul déclare, « nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'homme doit agir avec les facultés que Dieu lui a données. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Quand la volonté est placée du côté du Seigneur, le Saint-Esprit prend cette volonté et l'unit à la volonté divine.